Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis le frère Christian Marie, dominicain, et il va falloir que vous corrigiez les programmes, parce que je suis recteur émérite de l'oratoire de la Sainte-Passe. Je ne suis plus recteur depuis le 31 août, enfin depuis le 1er septembre, puisque mon mandat allait jusqu'au 31 août, puisque les dominicains ont quitté Tours le 1er septembre. Donc je ne suis plus recteur, mais mon engagement a été pris depuis déjà longtemps, donc je viens vous parler. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort. La communauté n'entend pas. Alors, comment on va faire? Donc, je disais que j'étais à Tours jusqu'au début du mois dernier. Je suis actuellement en transit au monastère des Dominicaines de Paray-le-Monial, en attendant de rejoindre en fin d'année le couvent de la Sainte-Baume. Voilà, donc je vais vers Marie-Madeleine. Mais nous sommes là pour vivre, ou tout au moins pour essayer de découvrir comment aimer Jésus avec Sainte Véronique, qui est une autre femme qui a rencontré Jésus, qui est une autre femme qui va nous apprendre à nous tourner vers Jésus. Cette conférence, je l'ai déjà donnée, Paray-le-Monial, justement, dans le cadre des Journées du Sacré-Cœur, il y a 2 ans, si je me souviens bien. Alors, ce ne sera pas exactement la même, évidemment, parce que depuis, il y a des choses qui ont bougé, et puis, il y a des choses que je voudrais vous dire que je n'ai pas dit à ce moment-là, et inversement. Aimer Jésus avec Sainte Véronique, cela commence à la 6e station du chemin de croix. Véronique essuie le visage de Jésus. Alors, nous allons faire un petit voyage dans le temps, peut-être aussi dans l'espace, pour écouter une belle méditation que j'ai recueillie dans ce petit livre. Alors, ce livre est un livre qui s'appelle « La dévotion à la Sainte Véronique ». Et qui a été écrit par un frère dominicain, le frère Antonin Thomas, à la fin du XVIIe siècle. Vous voyez, ce n'était pas hier. Et ce livret a été écrit pour la confrérie de la Sainte Véronique de Nantes. Je ne savais pas qu'un jour je donnerais cette conférence à Nantes et que j'aurais la joie de parler. Alors si toutefois, parmi vous, il y en a qui savent où était l'église des Jacobins ou des frères prêcheurs à Nantes avant la Révolution, ça m'intéresserait de le savoir parce qu'il y avait dans cette église, à l'entrée de l'église, une chapelle dédiée à la Sainte Véronique, la chapelle de la confrérie de la Sainte Véronique qui avait été érigée par Jean V. Voilà. Donc si vous voulez retrouver un peu d'histoire. Ce petit livret avait été réédité à la fin du XIXe siècle par les pères de la Sainte-Face, mes prédécesseurs à l'oratoire, justement pour donner de quoi méditer la dévotion à la Sainte-Face. Voilà ce qu'écrivait le père Antonin Thomas. Le patient Jésus portait sa pesante croix sur ses épaules déchirées par les grands coups de fouet, suant de fatigue et de faiblesse, son sang et ses forces étaient presque épuisés. Les bourreaux le conduisaient à la montagne du Calvaire, rude et de difficile accès. Ils le pressaient à coups de pieds et de bâtons avec la dernière cruauté, par l'impatience qu'ils avaient de le faire mourir. Mais comme il tombait presque à chaque pas de faiblesse, De peur qu'il ne mourût sur le chemin, ils furent contraints de le laisser un peu prendre haleine. Ils le firent donc asseoir proche de la maison d'une honnête et pieuse dame veuve nommée Bérénice. Chose étrange que de toute la grande multitude de personnes qui suivaient ce doux et innocent agneau et qui le voyaient dans une si grande extrémité, nul ne témoigna avoir le désir ni la pensée de lui offrir le moindre rafraîchissement. Des 5000 hommes qu'il avait sustentés au désert, des paralytiques et des autres malades qu'il avait guéris, des possédés qu'il avait délivrés, pas un n'a compassion de son bienfaiteur. Ses amis et ses disciples n'osent paraître ni parler. Il n'était pas même permis à sa sainte mère affligée de l'approcher et de lui donner aucun soulagement. Les princes des prêtres et des pharisiens se réjouissaient de le voir près de mourir et se moquaient de ses peines. Enfin, tous les autres le suivaient par curiosité pour voir la fin de ce tragique spectacle, et ils les regardaient comme un homme maudit de Dieu et du peuple, parce qu'il était condamné au supplice infâme de la croix. Selon ce que dit le Deutéronome, maudit de Dieu qui pend au bois. Il est vrai que plusieurs femmes suivaient Jésus-Christ pleurant et se lamentant, mais comme ce n'était que par une compassion naturelle, ils ne recevaient aucune consolation de leurs larmes. Au contraire, il leur dit qu'elles n'eussent pas à pleurer sur sa misère, mais bien sur leurs enfants et sur elles-mêmes. Il n'y a que la seule Bérénice qui, par une tendre compassion, le veut soulager et qui, sans craindre la fureur des soldats, fend la presse généreusement, approche du patient Jésus et lui présente avec un très grand respect le voile blanc de sa tête pour essuyer son sacré visage tout baigné de sueur, couvert de sang et de crachats. Le doux Sauveur lui témoigne incontinent combien ce bon office lui était agréable, car il n'avait fait aucun miracle depuis qu'il s'était laissé prendre, et il en fit un très considérable pour récompenser sa piété, qui fut de lui rendre son voile empreint des traits de son visage, après s'en être essuyé. Qu'admirons-nous ici? Ou la piété et le courage de Bérénice, ou la libéralité de Jésus? La tendresse de cette dame, ou l'affection du Sauveur? Car que pouvait-il donner de plus précieux et de plus agréable que son vénérable portrait? Le Sauveur ferait présent à Bérénice de son image empreinte de son propre sang, de sa sueur et de ses larmes. Qu'est-il au monde de plus rare, de plus noble, de plus précieux? Voilà, déjà on pourrait s'arrêter presque là. Il y a déjà de quoi méditer longuement. Bien que les évangiles ne parlent pas de cet épisode de la sixième station du chemin de croix, d'anciennes traditions nous rapportent que Bérénice, dont nous venons d'entendre parler, était la femme hémorroïs qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui, dans un acte de foi héroïque, traversa la foule qui pressait Jésus de toutes parts pour obtenir sa guérison. Vous vous souvenez que ce passage est au livre de l'Évangile de Luc, au chapitre 8, dans les versets 43 et 48. Et le Seigneur, à un moment, avait demandé « Qui m'a touché ?» après qu'il eut senti une force qui sortait de lui. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Et elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui répond, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Aussi, il ne faut pas nous étonner si quelques mois plus tard, la même femme a retrouvé son courage pour fendre la foule et apporter son soutien à l'homme qui l'avait si miraculeusement guéri et respecté sans la rejeter. Dans un élan de charité et de générosité, elle veut manifester à cet homme souffrant la profondeur de sa reconnaissance. Je pense vraiment que ce geste d'humanité vraie a été un encouragement et un réconfort pour Jésus. En laissant son visage imprimé sur le voile de cette femme, il lui offre un souvenir indélébile de gratitude et il est conforté dans sa mission. Le don de sa vie n'est pas stérile. L'exemple de Bérénice ou de Véronique, comme on l'appellera aussi, comme vous, est pour chaque chrétien une invitation à prendre soin du corps physique de Jésus. Alors, comment pouvons-nous, nous-mêmes, aujourd'hui, reproduire ce geste charitable de cette femme, de Véronique? Eh bien, le Seigneur nous l'enseigne au chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Frères et sœurs, voulez-vous aimer Jésus avec Véronique, essuyer la face du Seigneur? Alors un moyen tout simple et de s'engager dans toutes les associations caritatives, pas dans toutes, mais dans les associations caritatives, parce que si on va dans toutes, ça va être compliqué. Il y en a tellement. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'associations recherchent des bénévoles. Et il me semble que ce serait déjà un premier témoignage chrétien de s'engager au service de ces associations, pour servir le Christ dans celui que nous rencontrons ou celle que nous rencontrons. Il est vrai que cela n'est pas réservé aux chrétiens, mais si nous ne sommes plus là pour donner l'exemple, alors nous risquons de ne plus répondre à notre mission et à l'appel du Seigneur. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans la méditation. Où sont donc tous ceux qui ont bénéficié des largesses et des grâces distribuées par Jésus? Il n'y avait plus que cette femme pour le remercier et le réconforter. Comment ne pas entendre ici les paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie? Les ingratitudes et les méconnaissances me sont beaucoup plus sensibles que tout ce que j'ai souffert en ma passion. D'autant que s'il rendrait quelques retours d'amour, j'estimerais pour peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras être capable. Je vous ai dit que j'avais été recteur de l'oratoire de la Sainte-Face à Tours. Eh bien, cet oratoire, cette petite chapelle, a été aménagée dans le salon d'un pieux laïc le vénérable Léon Papin Dupont, que ses contemporains avaient surnommé le saint homme de Tours. Ces dates sont de 1797 au Lamantin en Martinique à 1876 à Tours. Ce monsieur avait donc installé dans son salon au cours de la Semaine Sainte de 1851 un fac-similé du voile de Véronique, qui est une gravure sur tissu qui provenait de Rome et qui avait touché à la précieuse relique conservée au Vatican. Il posa une lampe à huile devant l'image en signe de respect. Après quelques jours, une jeune femme est venue le visiter et se plaignait des douleurs aux yeux. Monsieur Dupont lui suggéra de prier devant la Sainte Face en demandant sa guérison, puis il lui conseilla de prendre et de faire une onction avec l'huile de la lampe sur ses yeux. Elle ressentit un apaisement immédiat et elle demanda de l'huile pour en emporter chez elle. Quelques jours plus tard, c'est un jeune coursier qui vient faire une livraison et il a une blessure à la jambe. Monsieur Dupont lui dit de faire une onction avec l'huile et il est instantanément guéri en partant courant dans le jardin. Et pendant 25 ans, jusqu'à sa mort, Monsieur Dupont a accueilli dans son salon des milliers de personnes qui venaient demander sa prière, demander de l'huile, et qui ont obtenu de nombreuses grâces. Et après sa mort, sa maison fut transformée en chapelle pour répondre à l'afflux des pèlerins qui continuaient. Et depuis plus de 170 ans, une lampe brûle devant l'image de la Sainte Face, et nous continuons, ceux qui sont aujourd'hui à l'oratoire, continuent d'envoyer de l'huile dans le monde entier. Et pourtant, ce n'est pas là que M. Dupont a reçu ses lettres de noblesse, si je peux dire, ou de charité. Il n'a pas attendu d'avoir l'image de la Sainte Face pour développer cela. Il l'a développé depuis bien longtemps. Le premier acte de charité que je trouve dans sa vie, c'est un jour qu'il était étudiant à Paris. Il a fait ses études de droit. Et c'était un jeune homme aisé financièrement, un peu cavaleur, un peu fêtard, qu'on avait surnommé le marquis des égards. Et puis ce garçon, qui profitait allègrement de ses biens, s'est retrouvé un jour devant quelqu'un qui s'occupait des petits ramoneurs, qui avait fondé une association pour la catéchèse des petits ramoneurs. Et puis voilà que M. Dupont lui dit, « Oh, vous souvenez-vous, la semaine dernière, on était allé au bois, en promenade, et nous avons reçu un orage terrible sur la tête. Nous sommes rentrés complètement trempés. Et vous donc, vous étiez où à ce moment-là ? » Et le monsieur de lui répondre, « Je ne me souviens pas d'un orage. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais aux vêpres. » M. Dupont lui dit, « Aux vêpres ? Mais quelle vêpres, un jour de semaine ?» Et il se rendit compte à ce moment-là qu'il avait loupé un jour d'obligation. Ça a été un tournant fulgurant dans sa vie. Il a vécu une conversion forte et quelques jours plus tard, il se trouvait dans la boutique d'un marchand de papeterie, et au moment où il était là, arrive un huissier avec la maréchaussée pour saisir le magasin. Et dans un élan de générosité, il dit « Prenez mon cheval, prenez mon équipage, vendez et payez. » Et la boutique a été sauvée, le marchand a pu continuer son activité et en a témoigné quelques années plus tard. Voilà ce premier moment chez lui. Et puis ensuite, quand il va arriver à Tours, alors qu'il a quitté la Martinique, puisque sa femme venait de décéder, Il arrive à Tours avec sa petite fille qui a quelques mois, sa mère et des serviteurs. Eh bien, cet homme va se dévouer au sein des conférences Saint-Vincent de Paul. Il va entrer dans ces conférences d'abord au service des prisonniers. Il va aller visiter la prison et on raconte qu'un jour, il y avait un prisonnier atteint d'une maladie de peau que personne ne pouvait approcher tellement son odeur était fétide. Et puis en plus de ça, non seulement il avait mauvaise odeur, mais en plus il avait mauvais caractère. Donc on lui tendait sa gamelle avec un bâton et on refermait vite la porte. Monsieur Dupont, ayant connaissance de ce cas, demande à aller le visiter. Il se fait d'abord recevoir avec une volée de jurons, mais il persiste. Et au fil des jours, il finit par apprivoiser cet homme qui est furieux. Et puis, progressivement, il va lui parler de Dieu. Il va l'amener à prier. Il va l'amener à s'interroger sur Dieu. Et puis, il va lui proposer de faire une neuvaine. Il lui dit, vous allez faire une neuvaine et je vais prier avec vous. Et pendant 9 jours, Monsieur Dupont va accompagner cet homme dans sa neuvaine de prière, et à la fin de la neuvaine, cet homme sera guéri. Il va retrouver sa confiance en Dieu, et à sa libération, il deviendra un fervent chrétien qui est mort dans de bonnes dispositions. Monsieur Dupont aussi a fait participer au cours du soir d'alphabétisation. Et puis, le malheur lui avait pris sa femme et à l'âge de 15 ans, sa fille est décédée. Alors, avec la dot qu'il avait mis de côté pour elle, eh bien, il va acheter une maison à Tours pour installer les petites sœurs des pauvres qui venaient d'être fondées par Saint-Jean-Jugan. Il va aménager cette maison pour que les sœurs puissent accueillir les vieillards. Il y aurait bien d'autres éléments encore à vous dire dans cette charité de Monsieur Dupont, parce que pour lui, sa ligne de conduite, sa ligne spirituelle, c'était la réparation. Et d'abord, la réparation des personnes, dans leur dignité, dans leur honneur, dans leur vie. Il fallait réparer les êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est bien ce que fit Jésus lui-même quand il vint parmi nous, ses nombreux miracles de guérison en sont le signe. Monsieur Dupont était cependant beaucoup plus attaché aux guérisons spirituelles qu'aux guérisons physiques. Avec le souci de la réparation des personnes, il avait aussi celui de la réparation des bâtiments, et en particulier des églises et des chapelles qui avaient été détruites ou profanées par la Révolution. Alors on le voyait le soir partir dans les rues de Tours pour faire ce qu'il appelait son chemin de croix. Il allait par les rues en disant son chapelet et il priait aux différents lieux où s'était élevé autrefois un lieu de prière. L'une de ces stations était l'emplacement de l'ancienne basilique de Saint-Martin qui avait été rasée en 1802. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte, quand par sa persévérance on a retrouvé le tombeau de Saint-Martin, eh bien que quand il venait prier là, il priait à l'aplomb du tombeau, sans le savoir, puisqu'on l'a redécouvert 25 ans plus tard. Monsieur Dupont avait ce souci de réparer les âmes. Il a effectué beaucoup de pèlerinages et il proposait ce moyen, le pèlerinage, comme étant le plus efficace pour animer la foi au sein des populations. Peut-être qu'on pourrait suivre son exemple encore aujourd'hui. Nous avons vu, il faut que j'avance un peu parce que j'ai tellement de choses à vous dire, que après avoir appris à aimer Jésus avec Véronique dans son corps physique ou dans son humanité, nous allons voir maintenant comment, par la dévotion à la Sainte Face, on peut aimer Jésus souffrant dans son corps mystique, qui est l'Église. La dévotion à la Sainte Face, je vous disais tout à l'heure, remonte au chemin du calvaire. Elle est donc très ancienne et traditionnelle dans l'Église. À Tours, elle a été renouvelée et ravivée par les révélations reçues sous forme de motions intérieures par une jeune sœur du Carmel, sœur Marie de Saint-Pierre et de la Sainte Famille. Elle était entrée au Carmel le 13 novembre 1839, à l'âge de 23 ans, et elle est décédée en 1848, à peine âgée de 33 ans. Il ressort de ce qu'elle reçoit, et de l'exemple de M. Dupont aussi, que nous devons comprendre que la dévotion à la Sainte Face ressort de la dévotion au Sacré-Cœur. Monsieur Dupont, comme la sœur Marie de Saint-Pierre, était de grands dévots du Sacré-Cœur. Et voici qu'un jour, Monsieur Dupont établit un rapprochement entre ce que dit Sainte Marguerite Marie et ce que reçoit la sœur du Carmel. Il dit « Si le cœur de Jésus est l'emblème de l'amour, sa face adorable est l'expression des souffrances endurées pour nous. » Le Seigneur veut conduire la sœur Marie de Saint-Pierre, sa fidèle disciple, aux sources les plus intimes de son cœur, d'abord avant de l'initier au mystère réparateur de la Sainte Face. Elle écrit un jour dans une lettre qu'elle donne à sa prieure, le 2 août 1843. Ensuite, il m'a ouvert son cœur. Elle parle de Jésus, bien sûr. Il a recueilli en lui les puissances de mon âme, et alors j'entendis ses paroles. Mon nom est partout blasphémé. Les enfants même m'outragent par le blasphème. Il me fit voir combien cet affreux péché blessait douloureusement son divin cœur plus que tous les autres. Parce que par le blasphème, l'homme attaque Dieu ouvertement et le maudit en face. De plus, le blasphémateur anéantit sa rédemption et prononce lui-même son jugement et sa condamnation. Notre Seigneur me dit encore que ce péché, comme une flèche empoisonnée, perçait continuellement son cœur et qu'il allait m'en donner une en or pour le blesser délicieusement et pour cicatriser les plaies que lui fait la malice des pécheurs. Voici la louange qu'il me dicta, malgré ma grande aniété, pour la réparation des blasphèmes de son saint nom. Cette prière s'appelle la flèche d'or et dit: qu'à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié, le très saint, très sacré, très adorable, très inconnu, très inexprimable nom de Dieu, au ciel, sur la terre et dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de Dieu, et par le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au très saint sacrement de l'autel. Quittons Tours quelques instants pour nous approcher de la bienheureuse Maria Pierina de Micheli, une religieuse en Italie au XXe siècle qui reçut des révélations de Jésus qui lui demandait de vénérer sa sainte face, voilà ce qu'il dit. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Une autre fois, il dit, toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai l'amour dans les cœurs. Et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. En contemplant mon visage, les âmes participeront à mes souffrances et sentiront le besoin d'aimer et de réparer. Et puis, nous pouvons aussi nous tourner vers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui, en méditant sur l'Épître aux Corinthiens, comprit que la charité était renfermée dans le cœur du Christ et donc dans celui de l'Église. Elle découvrit sa vocation. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Pendant plusieurs mois, Jésus va continuer de se communiquer à la sœur Saint-Pierre pour lui demander d'établir une confrérie pour la gloire du nom de Dieu en réparation des blasphèmes et contre le travail du dimanche. Et il donne la Sainte Face comme objet de dévotion des associés. Le 11 octobre 1845, sœur Marie de Saint-Pierre écrit ce qu'elle a vécu pendant son oraison. Notre Seigneur a transporté mon esprit sur la route du calvaire et m'a vivement représenté le pieux office que lui rendit Sainte Véronique, qui de son voile étuya sa très sainte face, qui était alors couverte du crachat, de poussière, de sueur et de sang. Ensuite, ce divin Sauveur m'a fait entendre que les impies renouvelaient actuellement par leurs blasphèmes les outrages faits à sa sainte face. Et j'ai compris que tous ces blasphèmes que ces impies lançaient contre la divinité, contre Dieu, qu'ils ne peuvent atteindre, retombent comme les crachats des Juifs sur la face de notre Seigneur, qui s'est fait la victime des pécheurs. Alors notre divin Sauveur m'a fait entendre qu'il fallait que j'imite le courage de Sainte Véronique, qu'il me donnait pour protectrice et pour modèle. Elle qui traversa si courageusement la foule de ses ennemis. Ensuite, j'ai compris que notre Seigneur me disait qu'en s'appliquant à l'exercice de la réparation des blasphèmes, on lui rendait le même service que lui rendit la pieuse Véronique et qu'il regardait celle qui lui rendait avec les yeux d'une même complaisance dont il regarda cette femme lors de sa passion. Et je voyais que notre Seigneur avait beaucoup d'amour pour elle. Quelques jours plus tard, le lien avec l'Église s'approfondit. Notre doux Sauveur, ayant recueilli les puissances de mon âme dans son cœur sacré, m'a fortement appliqué à la contemplation de sa face adorable. Et j'ai connu par la lumière de ses rayons que cette face auguste et sainte offerte à nos hommages était le miroir ineffable des perfections divines, perfections qui sont renfermées, exprimées dans le très saint nom de Dieu. Il m'est impossible d'exprimer à cette vue intellectuelle, si ce n'est par des paroles de l'apôtre saint Paul, « Tu es le chef de son Christ ». J'ai compris que comme le Sacré-Cœur de Jésus est l'objet sensible offert à nos adorations, pour représenter son amour immense envers les hommes, de même aussi, la face auguste de notre Seigneur est l'objet sensible offert à l'adoration des associés de l'œuvre réparatrice. Ils doivent donc honorer et vénérer avec un profond respect cette sainte face couverte d'opprobre par les impies. En blasphémant, ils attaquent la divinité dont elle est la figure, le miroir et l'expression. J'ai connu que tous les blasphémateurs et les sectaires réitéraient à la face de notre Seigneur les outrages de sa passion. À la faveur de cette divine lumière, j'ai vu comment ceux qui blasphèment et profèrent des paroles déshonnêtes crachent au visage du Sauveur et le couvrent de boue. Je voyais encore tous les coups donnés par les sectaires à la Sainte Église et à la religion étaient le renouvellement des nombreux soufflets dont a été déshonorée cette sainte face. Enfin, que les impies faisaient suer cette face adorable en s'efforçant d'anéantir les divins travaux du Fils de Dieu. En même temps, notre Seigneur m'a dit « Je cherche des Véroniques pour essuyer et honorer ma face et la peu d'adorateurs. » Il m'a répété que s'appliquer à cette œuvre de réparation, c'était exercer envers lui l'office de la pieuse Véronique. Notre Seigneur m'a dit encore, « Je vous donne ma face pour vous récompenser des services que vous me rendez depuis 2 ans. » Vous avez fait peu de choses, il est vrai, mais votre cœur a concilié de grands désirs. Je vous donne donc cette face en présence de mon Père, dans la vertu du Saint-Esprit, devant les anges et les saints. Je vous la donne par les mains de ma Sainte Mère et de la Véronique, qui vous apprendra à la vénérer et à l'adorer. Pour conclure, je dirais qu'aimer Jésus avec Véronique ne demande pas d'abord d'avoir des sentiments ou des sensations ou des grands transports mystiques, mais bien de poser des actes concrets. Dans la première lettre de Jean, nous pouvons lire « Petits enfants, n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Nous l'avons vu dans les actions caritatives de M. Dupont. Nous l'avons entendu aussi dans les révélations de Sœur Marie de Saint-Pierre. Tous deux aimaient l'Église, les autres saints aussi d'ailleurs. M. Dupont aimait l'Église et il aimait aussi particulièrement ses ministres, surtout les plus défaillants. Il aimait et respectait le pape et son évêque, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord. La dévotion de réparation veut bien sûr rendre amour pour amour, comme cela est aussi précisé dans la dévotion au Sacré-Cœur. Mais la dévotion à la Sainte Face veut aussi faire œuvre de réparation de l'image de Dieu défigurée par l'homme pécheur, réparer la création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous remercie. Nous avons maintenant quelques minutes pour ceux qui le souhaiteraient pour éclairer l'un ou l'autre point, poser l'une ou l'autre question, demander quelque chose que vous n'avez pas compris ou peut-être quelque chose qui n'a rien à voir ici. Vous êtes libre. On va attendre que le micro passe jusqu'à vous.
Vous avez parlé d'une sœur italienne, c'est Maria Goretti. Non, hein? Oui? Je n'arrive pas.
Marie-Pierrina Guérini.
Je pense que Jésus aime bien les Marie-Pierre pour honorer sa sainte face. Il y en a parmi vous qui s'appellent Marie-Pierre, la balle est dans votre camp.
Oui, Père, le premier élément de charité de M. Dupont, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, comment ça s'est passé.
Alors, en fait, c'était un jeune homme qui se croyait très chrétien parce qu'il allait à la messe le dimanche. Et puis, un jour, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, lui qui se croyait très chrétien, il avait oublié les fêtes d'obligation. Et donc, ça l'a transformé. Il s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai cette prétention d'être chrétien et j'oublie des choses comme ça. Et c'était ce qui l'a converti, ce qui l'a bousculé. Et de là, en fait, celui qu'on appelait le marquis des Égards est devenu quelqu'un d'autre. Il a vendu tout ce qui faisait son faste et il est rentré, j'allais dire, beaucoup plus dans l'humilité, ce qui a été son chemin aussi pendant toute sa vie, ce chemin d'humilité, revendiquant toujours sa foi, ne se cachant jamais d'être chrétien, parlant de Dieu ou à Dieu. Il allait partout, il était reçu dans toutes les bonnes familles de Tours parce qu'il était quand même affilié de par sa femme à une certaine, comment elle s'appelle, Joséphine de Beauharnais, c'est ça? Donc vous voyez, de parenté martiniquaise, donc il a été reçu dans les bonnes familles et partout où il allait, il fallait qu'il parle de Dieu. Tours à l'époque était une ville franc-maçonne et donc les hommes n'allaient pas à la messe ou quasiment pas à la messe. Lui, il allait à la messe tous les jours, il communiait très fréquemment, ce qui était assez rare à son époque, ce qui voulait dire qu'il se confessait au moins une fois par semaine. Donc voilà, j'ai des fois je me demande ce qu'il pouvait confesser, mais ça c'est une autre question. Et voilà, il a vécu vraiment une transformation intime, intérieure, qui l'a amené même à un moment à se poser la question de devenir prêtre. Et puis les événements de la vie, sa vocation n'était pas celle-là. Et je pense qu'effectivement, sa vocation n'était pas celle-là. Voilà, ça répond à votre question ?
Je n'ai pas très bien compris comment, quels sont les moyens de réparer pour la sainte face.
D'abord, le premier moyen de réparer pour la sainte face, c'est de vivre les grâces de son baptême. Ensuite, il y a donc dans les statuts de l'association, alors attendez, je recherche parce que je ne vous l'ai pas donné, voilà. L'association, l'archiconfrérie de la Sainte Face, les associés s'engagent à développer l'esprit de réparation pour leurs péchés et pour ceux du monde dans leur vie personnelle et autour d'eux. À cette fin, ils s'efforcent de s'unir davantage au sacrifice rédempteur du Christ par une grande dévotion envers la Sainte Eucharistie. Alors, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui concerne M. Dupont et l'Eucharistie, ce serait l'objet d'une autre conférence. Ils répondent avec empressement aux appels de l'Église en offrant leur devoir d'État, leur peine de chaque jour et leur pénitence volontaire dans un esprit de réparation. Je pense que ça doit ressembler beaucoup à la dévotion au Sacré-Cœur et à la garde d'honneur. Ils participent aux activités apostoliques et charitables de leur temps, selon leurs possibilités. Enfin, l'invocation « Seigneur, montrez-nous votre face et nous serons sauvés » leur est recommandée pour attirer la miséricorde du Christ sur le monde qu'il a racheté. Voilà. Souvent, voilà, on a dans beaucoup de confréries, il y a une phrase, une formule. Eh bien, ici, c'est « Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés ». C'est ce qui est inscrit sur la porte du tabernacle et au fronton dans l'oratoire de la Sainte Face. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Alors moi, j'ai pas une question, mais en revanche, j'ai demandé à un de mes amis qui est spécialiste de l'histoire de Nantes pour pouvoir répondre à votre question sur l'église des Jacobins qui datait d'avant la Révolution. Et en fait, il m'a dit que c'est... Alors, il n'a pas de nom exact, mais que c'est dans le quartier du Bouffay. Et a priori, on peut le retrouver à travers une trace vestige qui est restée. Je ne sais pas si ça vous aide à quelque chose, mais peut-être plus pour chercher sur Internet après.
Oui. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Il y a dans l'Église catholique, qui est tellement riche, qui est pleine de trésors, il y a plein de dévotions spécifiques. Alors, comment on fait pour choisir les dévotions parce que moi, je suis dans la famille du Sacré-Cœur de Jésus. Donc là, après, est-ce qu'il faut cumuler les dévotions? Je pense pas, mais voilà, c'est ça la question.
Alors il y a peut-être deux façons de faire, peut-être plus, je ne sais pas, mais au moins. Si on se rapporte à M. Dupont, il embrassait toutes les dévotions et toutes les saints, il se confie à tous les saints qu'on lui présentait. Donc ça veut dire qu'il était affilié à je ne sais combien de confréries, d'associations de prière, de ceci, de cela. Donc on peut faire ce choix-là. Si j'avais le temps, j'essaierai de vous retrouver l'emploi du temps d'une de ces journées. Je ne suis pas sûr d'y arriver avant la fin, mais si je peux, je vous le retrouverai. C'est assez phénoménal, parce que c'est quelqu'un qui dormait 3-4 heures par nuit. Hein? Et le reste du temps, donc, il se levait. Alors, quand il se levait, il avait une prière. Quand il mettait ses chaussettes, il avait une prière. Vous voyez, il s'habillait, il avait une prière, il faisait ceci, ça. Il avait des prières pour toute sa journée. Il passait son temps à prier. Et en plus de ça, il allait à la messe, il allait s'occuper des pauvres, il allait par les rues distribuer des aumônes, il allait visiter les vieux chez les sœurs, il allait ceci, il allait cela, il s'occupait de l'adoration nocturne des hommes, il s'occupait de... assez phénoménal. Et puis vous avez l'autre solution ou l'autre possibilité, c'est de choisir ce qui est près de vous, ce qui vous est proposé, ce que vous rencontrez, ce qui vous attire, ce que votre chemin spirituel vous donne de découvrir, parce que si vous voulez être de toutes les dévotions, à part certaines personnes très exceptionnelles, vous risquez d'en être d'aucune. C'est comme, vous savez, quand on aime tout le monde, en fait, on n'aime personne. Voilà. Vous, si, j'allais dire, faites déjà bien ce que vous avez à faire, je crois que Dieu ne regarde pas la quantité de prières qu'on dit chaque jour, ou tout au moins la quantité de formules qu'on dit chaque jour, il regarde d'abord à notre cœur. Et je pense que ceux qui sont parents ici ne me contrediront pas quand on est plus heureux d'un enfant qui vous dit « je vous aime » avec des yeux qui brillent qu'avec un enfant qui vous aime, qui dit « je vous aime » en tout vous tourne dans le dos. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, être de toutes les confréries, de toutes les dévotions, je connais certaines personnes qui en ont beaucoup, mais je ne les vois pas beaucoup en dehors de ce qu'elles font avec toutes leurs prières, voyez. L'action, c'est aussi un moyen de vivre avec Jésus et de s'occuper du corps souffrant de Jésus.
Vous avez dit, Père, qu'il y a des personnes qui vont prier devant le visage du Seigneur et que lui donne la contrepartie. Mais alors la question, c'est où est le visage du Seigneur? Est-ce que c'est sur cette image qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est celle du Père Antoine-Marie Claret? Est-ce que c'est les visages du Christ où un prêtre va vous dire que tu vois un prêtre, et bien c'est un des visages du Christ? Ou un saint qui dit, tu regardes ton frère et tu vois Dieu? Alors où est-il ce visage du Christ sur lequel on peut vraiment prier et méditer?
C'est une bonne question. Les autres aussi, hein, mais... Alors... Le visage de Jésus... Il est au ciel. Vous savez, il y a trois lieux qui revendiquent d'avoir la sainte face. Il y a Manopelo, il y a ceux qui vénèrent le linceul de Turin, et puis il y a la sainte face dite de Tours, qui, entre parenthèses, était celle vénérée par Thérèse Martin. Je me suis fait plusieurs fois prendre à partie par des gens qui me disaient « Mais vous n'avez pas la vraie !» Oh, je dis, vous savez, la vraie face de Jésus, elle est au ciel. Alors, ni Manopelo, ni Turin, ni tout ce que vous voulez, n'ont la vraie. La vraie, elle est au ciel. Puis je vais vous dire, moi je suis sûr que je n'ai pas la vraie. Parce que la Sainte Face de Tours, c'est un dessin qui a été fait en 1849 au moment d'un miracle qui a été constaté à Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire que le voile de Véronique était exposé à la dévotion des fidèles et à un moment, les gens ont vu un visage s'animer sur le tissu. Et ça a été constaté par acte notarié, ça a été constaté, les journaux de l'époque en ont parlé, il y a eu des dizaines de personnes qui l'ont constaté. Et puis, le visage a commencé à disparaître. Et quelqu'un a fait un dessin de ce qu'ils avaient vu. Ce dessin a été gravé sur des morceaux de tissu, c'est de la gravure sur tissu, qui a été fait à des centaines d'exemplaires, distribué à des centaines d'exemplaires dans toute l'Europe, avec un petit authentique qui dit que ce tissu a touché à la Sainte Face, à la Véronique qui est conservée à Rome. Moi, je suis sûr que je n'ai pas la vraie. Mais est-ce qu'il faut avoir la vraie pour aimer Jésus? Première question. Et ce que nous savons, c'est qu'à la sainte face dite de Tours, qui était dans le salon de M. Dupont, le Seigneur a choisi ce salon-là, cette maison-là, pour répandre des grâces. C'est pas M. Dupont qui l'a voulu, je pense même qu'il aurait préféré s'en dispenser, parce qu'il a dit combien de fois au Seigneur, « Pourquoi avez-vous choisi la maison du pauvre pèlerin pour ça? Il y avait bien mieux ailleurs. » Donc, le vrai visage de Jésus, il est au ciel. Mais Jésus nous dit aussi qu'on voit son visage dans le visage des pauvres, dans le visage de l'autre, dans le visage de chacun de nous, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc tant qu'on aura de la dévotion pour chercher ce qui est vrai, comme étant tangible matériellement, je pense qu'on n'est encore pas parvenu à la foi.